demande si ça vaut bien la peine. Parce que je suis... Oh, pas une parole d'expert. Hein.
Voilà donc pour notre dernière journée, du moins matinée. Nous sommes heureux d'accueillir Monseigneur François Caliste, nouvel archevêque de Clermont, depuis quelques mois, qui a accepté de réfléchir avec nous autour du thème du sport et de la foi, et notamment la place du sport dans l'Église.
Oui, bon, bah écoutez, merci de m'avoir invité à participer à ce colloque en dernière matinée. Je suis heureux de vous accueillir d'une certaine façon dans ce diocèse, dans cette maison au cœur de ce diocèse de Clermont. Vous me pardonnerez d'avoir une voix un peu limitée par les effets d'une climatisation sans doute dans l'autocar et peut-être aussi du mois d'avril, toujours un peu redoutable, car le soleil est chaud, mais l'air est frais. Bon, alors je suis un peu désarmé pour parler du sujet qu'on m'a confié, hein, le sport. S'il y a un sujet que je ne connais pas, c'est bien celui-là. Vous me pardonnerez toutes mes approximations et mes insuffisances, mais je serais en revanche très intéressé par entendre, dans le cadre du débat, j'imagine, vos suggestions, vos remarques, vos expériences, vos propositions dans le domaine d'une pastorale du sport, hein, parce que la place du sport dans l'Église, bon, j'imagine qu'il y en a une. On pourrait dire aussi la place de l'Église dans le sport. C'est aussi... Mais je suis peu qualifié n'étant pas moi-même sportif. Alors peut-être que ça fait rentrer toujours tout de suite dans le sujet, ça. Pourquoi on peut être sportif ou pas sportif? Mais je... Encore une fois, c'est une parole de... C'était vraiment une parole d'expert. Ben, il me semble que le goût pour la pratique d'un sport peut être développé par l'exemplarité. Le sport tel que je l'ai pratiqué à l'école, au collège ou au lycée, est un sport extrêmement décevant, je dois le dire. Un sport dont je garde un souvenir très négatif. Parce que c'est un sport qui était basé sur la compétition. C'est un sport qui visait à sélectionner les meilleurs, pour je ne sais quoi d'ailleurs, beaucoup plus qu'à éduquer individuellement et collectivement les élèves. Je me faisais cette réflexion il y a à peu près une semaine ou deux quand je visitais l'immense stade de l'ASM. Je n'explique pas ce que c'est que l'ASM, tout le monde connaît l'ASM. Et au fond, j'arrive à... presque 60 ans, et je n'ai, au fond, jamais appris à jouer au rugby. Je suis totalement ignare de le rugby, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas comment on y joue. Je sais vaguement qu'il y a un ballon ovale, à la différence du foot ou d'un ballon rond. Et puis, c'est tout. Voilà. Je vous dis mon ignorance. Hein. Or, mon ignorance, ben, elle procède sans doute d'un manque d'intérêt personnel pour la chose. Je dois dire que le ballon qui se revale au rond, j'ose dire, je m'en fous complètement. Hein, c'est vraiment pas mon problème. Mais je suis ignorant parce qu'au fond, on ne me l'a jamais appris. Voilà. Et j'aurais aimé peut-être que lors de l'école, collège ou lycée, eh bien, l'on m'a appris à jouer certains sports collectifs. Je pense que ça aurait été beaucoup plus... profitable que de sélectionner les meilleurs en vue de je ne sais quels exploits. Voilà. Alors j'en ai aucun ressentiment, hein. Je dis ça, c'est pour faire comprendre les choses, mais j'en ai aucun ressentiment. Alors j'ai une deuxième expérience du sport, qui est assez inattendue, mais c'est l'armée. Alors, le service militaire, autant on le faisait encore, et évidemment, pour être un bon militaire, il faut être un bon sportif. Sauf que, à l'armée, et ne voyez dans mes propos aucune propagande militariste, simplement je fais état d'un élément biographique, je constate que l'esprit était tout autre, car il s'agit de s'entraîner, mais il s'agit de travailler tous ensemble pour que nous puissions ensemble atteindre un objectif commun. S'il s'agit de faire un parcours du combattant, une marche commando, mais tout le monde la fera, mais tout le monde la fera de telle sorte que le plus fort ne prenne pas une avance démesurée et que le plus faible fasse de toute façon l'exercice comme tout le monde, parce qu'il y va de la survie du groupe, de la section ou de la compagnie. Voilà. Et alors, ça va vous paraître bête, mais j'ai trouvé que là, il y avait un bon esprit, et qu'on dit parfois les pires choses sur l'esprit militaire, mais j'ai trouvé que cet esprit était autrement plus constructif, parce qu'il prenait en compte le meilleur comme le plus faible, que tout le monde, de toute façon, était appelé à franchir les mêmes obstacles et à participer aux mêmes exercices. Alors, il y a une troisième expérience que je vous prépare, que je vous partage, et qui permet de nuancer un peu ce que je vous disais au début, comme quoi je ne connaissais rien au sport. C'est qu'à un certain moment, j'ai repris, pour des questions de l'équilibre, de détente, quoi, mais sans faire partie de quelque club que ce soit, à titre tout à fait privé, j'ai donc repris l'exercice de la piscine. Et j'ai fait de la piscine. C'est-à-dire que j'ai fait des records de lenteur. Tenir le plus longtemps possible en faisant le moins de mouvements dans un milieu aquatique. Voilà, je ne peux pas faire la planche, mais je peux durer un certain temps comme ça. Et c'est pas le sport, proprement dit, je dirais, qui m'a intéressé là dans l'aspect aquatique. C'est plutôt la détente. Hein. C'est-à-dire, je n'ai jamais appris à nager des nages compliquées. J'ai jamais fait des exercices de vitesse ou je ne sais quoi. J'ai fait des choses extrêmement pépères, mais qui m'ont permis, je dirais, une certaine détente. Vous voyez, c'est ça, tout je cherche. Parce que le milieu aquatique, eh bien, c'est un milieu complètement différent du milieu plutôt paperassier dans lequel j'évolue habituellement. Et je crois que c'était la forme de détente la plus complète. Parce que c'est un autre milieu. Et ça met en mouvement, c'est le cas de le dire, hein, le corps tout entier. Enfin, c'est pas à vous que j'apprendrai que la natation fait travailler l'ensemble du corps, à la différence d'autres sports qui font travailler principalement certains membres et pas les autres. Bon. Voilà, donc j'ai trouvé une espèce d'expérience de détente, hein, à travers une mise en œuvre globale de la dimension corporelle. Bien, c'est important de dire d'où on parle, hein. Alors vous voyez d'où je parle, cette expérience, c'est la mienne, elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle est ce qu'elle est, enfin c'est tout, mais ça connote un peu ce que je peux penser du sport et de la manière de vivre comme chrétien dans le sport, ou de lancer une pastorale du sport. Bon, j'ai eu peu de liens avec des structures d'église de nature sportive, mais il y avait à Limoges plusieurs groupes appartenant à la Fédération sportive et culturelle de France. Et il y a quelques années, d'ailleurs, cette FSCF avait organisé son centième, je crois, congrès national à Limoges. Bon, j'avais donc eu l'occasion d'y participer, bonjour, et j'avais été attentif à la dimension, si vous voulez, non seulement sportive, mais culturelle, et à la dimension de la recherche du sens. C'est-à-dire que le sport ne soit pas conçu comme une pure activité physique, ou que la dimension culturelle de la personne ne soit pas seulement de l'ordre de la, on dirait, gratifiant, quoi, mais que la question du sens soit posée à travers, notamment, la rencontre des autres et l'activité commune, sportive ou culturelle. Alors donc, expérience limitée, et si je vais chercher un peu dans nos sources, je me rends compte que le sport n'est pas un thème majeur de la théologie, ni de la pastorale, du moins à ma connaissance, hein, mais vous me direz peut-être le contraire. C'est simplement que, comme j'ignore, peut-être qu'en fait il y a des tas de... Il y a des tas de productions et des tas d'initiatives dont je ne suis pas au courant. Je vois d'ailleurs en permanence une petite bibliothèque de tous les ouvrages sur la pastorale du sport. Je serais très intéressé par une bibliographie. Enfin, qu'elle est petite. Alors, est-ce qu'elle est petite parce qu'on n'a pas voulu en amener beaucoup, ou bien est-ce qu'elle est petite parce qu'il n'y en a pas beaucoup? Je ne sais pas, c'est vous qui me direz. Mais donc, je serais intéressé par quelques documents. Bon, toujours est-il que dans ce que je peux connaître, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de choses. Alors, essentiellement un texte que j'ai trouvé dans le Concile Vatican II. Alors, Concile Vatican II, c'est un peu la Bible pour l'évêque, si je puis dire. Hein. Je parle en milieu œcuménique, hein. Mais c'est vrai qu'on va chercher spontanément dans le concile ce qui a bien pu être dit sur un sujet ou l'autre. Et alors, j'ai trouvé surtout un passage. Il y en a à peu près deux. Il en existe un autre, mais le plus important me semble être Gaudium et Spes, numéro 61. Faut bien le situer. Donc, c'est un texte de 1965, hein, et il faut bien le situer dans son contexte. Il fait d'ailleurs allusion à ce contexte, j'en lirai quelques passages. C'est le contexte du développement des loisirs. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent nous sembler évidentes aujourd'hui, par exemple, justement, prendre des vacances ou faire partie d'un club sportif, ou que sais-je encore, c'est pas si ancien que ça, hein. Ça s'est beaucoup démocratisé, popularisé, dans les années glorieuses, hein, comme on dit, et autour de 65, donc, eh bien, on voit en grand développement des activités culturelles et sportives, des loisirs. Alors donc, le Concile a estimé devoir dire quelque chose sur le loisir, sur l'activité culturelle en général, et sur le sport en particulier. Alors, je vous propose de le lire sommairement, après quelques larges extraits. Ce numéro 61 de Gaudium et Spes, donc sur l'Église dans le monde de ce temps, hein, s'intitule « Formation à une culture intégrale ». Donc on voit bien tout de suite que le propos n'est pas de parler du sport en tant que sport, mais de parler du sport en tant qu'il est un élément du développement intégral de la personne, un élément de sa de la culture. Bon. Alors, le propos commence par une espèce de petite théologie, hein, sur l'homme, petite anthropologie. De nos jours, plus que par le passé, la difficulté est grande d'opérer la synthèse entre les différentes discipline et branches du savoir. En effet, tandis que s'accroissent la masse et la diversité des éléments culturels, dans le même temps, s'amenuise la faculté pour chaque homme de les percevoir et de les harmoniser entre eux, si bien que l'image de l'homme universel s'évanouit de plus en plus. Un humaniste du début du XVIe siècle pouvait prétendre avoir un savoir à peu près encyclopédique, il est évident qu'aujourd'hui, on ne peut plus. Cependant, continue de s'imposer à chaque homme le devoir de sauvegarder l'intégralité de sa personnalité, en qui prédominent les valeurs d'intelligence, de volonté, de conscience et de fraternité, valeurs qui ont toutes leur fondement en Dieu créateur et qui ont été guéries et élevées d'une manière admirable dans le Christ. Donc, un seul être humain ne peut pas acquérir tous les savoirs, mais l'être humain demeure comme sujet global et appelé en tant que tel à développer les différents aspects qu'il constitue. Intelligence, volonté, conscience, fraternité. Alors tout cela non pas comme des valeurs que nous aurions décrétées par nous-mêmes, hein, mais dans un discours chrétien, comme des valeurs qui sont fondées en Dieu créateur et qui sont, on va dire, sauvées en Christ. Il me semble que les textes de tout à l'heure, enfin les textes de ces temps-ci, Bach, là, nous disent bien finalement ce salut dans ses différentes composantes, hein, salut du corps, le boiteux est guéri, mais aussi salut bon, de l'âme, de la conscience, de l'intelligence, de la volonté, dans la mesure où le disciple qui ne voyait pas voit, le disciple qui ne pouvait pas croire, eh bien, est transporté par la foi, le disciple qui avait peur est rempli d'Esprit Saint et devient annonceur d'Évangile, bon, etc. On voit bien que le disciple, ce n'est pas seulement un corps qui marche, c'est aussi un esprit qui travaille, et que pour être apôtre, eh bien, il faut un peu les deux. C'est important d'ailleurs cette dimension, alors je ne veux pas me lancer dans trop de théologie là, mais c'est important de souligner à quel point le christianisme, je dirais, défend le corps, hein, contre tout ce qui pourrait être négation du corps, dépréciation du corps, mépris du corps. Il faut bien voir ça parce que on nous renvoie souvent une image qui est fausse, hein, comme si le christianisme, c'était l'exaltation de valeurs spirituelles au détriment de la dimension corporelle de l'être humain. Rien n'est plus faux. Rien n'est plus faux. Enfin, il suffit de lire. C'est un peu compliqué, mais bon, lisez, ou si vous avez l'occasion de lire des textes patristiques, des textes spécialement de controverse contre la gnose, par exemple Saint-Irénée de Lyon, eh bien, il est remarquable de voir à quel point les pères de l'Église prennent la défense du corps contre des philosophies tout à fait respectables, comme le platonisme, mais qui donnaient à l'esprit une telle importance que le corps en était méprisé, dévalorisé, ignoré, considéré comme une ordure, un déchet, alors que seul l'esprit était digne d'être cultivé. J'insiste là-dessus, parce qu'on a souvent des idées ou des discours complètement faux. Autant dire qu'ils sont faux. Il suffit d'aller au texte pour se rendre compte. Alors qu'il y a eu au cours des siècles, parfois, des dérives, bon, et des relents de néoplatonisme, ça je ne conteste pas, mais la résurrection de la chair à laquelle nous croyons, enfin, c'est déjà, hein, dans l'affirmation même originelle de la résurrection du Christ, c'est déjà la promotion de la dimension corporelle, pas de la seule dimension corporelle bien sûr, mais de la dimension corporelle de l'être humain. Bon, voilà, je ferme cette parenthèse théologique, mais elle est importante parce que elle permet de bien situer l'importance, hein, du corps, et donc l'importance de ce qui peut développer le corps, pas seulement le corps, mais le corps, hein, dans notre univers, dans notre univers social et culturel actuel. Bon, Alors, donc, prise en compte de la personnalité dans son intégralité. Bon, la famille, bien sûr, est au premier chef responsable de cette éducation. Mais il n'y a pas que la famille. Je poursuis donc la lecture du texte. Pour cette même éducation, les sociétés actuelles disposent en particulier, grâce à la diffusion croissante des livres et aux nouveaux moyens de communication culturelle et sociale, de ressources opportunes qui peuvent faciliter l'universalité de la culture. En effet, avec la diminution plus ou moins généralisée du temps de travail, les occasions de se cultiver se multiplient pour la plupart des hommes. Il faut bien tenir compte du contexte. Ça pourrait nous paraître un peu, on dirait un peu passé de mode, quoi, ce genre de propos. Mais on est en 65. Et en 65, on est à moins de 30 ans de 1936, les congés payés. Je veux dire, il y a des choses qui sont acquises aujourd'hui, et encore, elles ne sont pas acquises pour tout le monde, mais enfin, elles sont globalement acquises aujourd'hui, qui ne l'étaient pas, ou qui étaient en cours à l'époque. Que les loisirs soient bien employés pour se détendre et pour fortifier la santé de l'esprit et du corps, en se livrant à des activités libres et des études désintéressées, à l'occasion de voyages en d'autres régions qui affinent l'intelligence et qui, de surcroît, enrichissent chacun par la connaissance de l'autre, également par des exercices physiques et des activités sportives qui aident à conserver un bon équilibre psychique, individuellement et aussi collectivement, et à établir des relations fraternelles entre les hommes de toutes conditions, de toutes nations ou de races différentes. Que les chrétiens collaborent donc aux manifestations et aux actions culturelles collectives qui sont de leur temps, qu'ils les humanisent et les imprègnent d'esprit chrétien. Bon, alors, là, on a un peu resserré le propos, là, des loisirs, oui, mais qu'est-ce qu'on en fait de ces loisirs? Là, il faut bien les employer, parce qu'ici, tout le monde sera d'accord, pour se détendre et pour fortifier la santé de l'esprit et du corps. Alors, on cite les voyages, qui sont l'occasion de rencontres et d'enrichissement mutuel, mais on cite également l'exercice physique et l'activité sportive. Alors, peut-être concentrer l'attention là-dessus. Exercice physique, activité sportive, qui aide à conserver un bon équilibre psychique. On pourrait s'attendre à ce qu'on conserve d'abord, je ne sais pas quoi, une bonne santé ou un bon équilibre physique, mais non, c'est en fait un bon équilibre psychique, c'est-à-dire que, on retrouve là un peu, je dirais, le mens sana in corpore sano, hein, si on veut avoir un mental sain, eh bien, il faut avoir un corps sain. Alors, santé, un sain, compris, bien. Il s'agit de santé, pas de sainteté, enfin, par exemple aussi de sainteté, bien. Donc, des exercices physiques et des activités sportives qui aident à conserver un bon équilibre psychique, individuellement et collectivement. Donc, ce n'est pas seulement la recherche de cet équilibre sur le plan de l'individu, je fais du sport parce que ça me fait du bien, mais aussi collectivement, je fais du sport parce que ça contribue à établir des relations avec l'autre en bonne harmonie. À établir des relations fraternelles entre les hommes de toutes conditions, de toutes nations ou de races différentes. On pourrait beaucoup insister sur ce point, hein, des relations fraternelles à travers le sport. Peut-être, le sport individuel, c'est peut-être plus difficile encore que, mais le sport collectif, sûrement. Des relations fraternelles entre les hommes de toutes conditions, dont la passion pour le sport peut dépasser les clivages sociaux, de toute nation. La fraternité du sport, on dirait, dépasse nos antagonismes, parfois un peu chauvin, ou de races différentes, et c'est d'autant plus important dans un contexte de mondialisation, où beaucoup de gens de beaucoup d'origines différentes se retrouvent et se côtoient, et le sport peut aider à cette bonne entente, à cette vie en harmonie. Donc au fond, on voit bien l'encouragement à l'exercice physique, mais avec des implications qui dépassent de beaucoup le seul équilibre physique du sujet sportif. Alors, il y avait la petite phrase finale qui donne à penser, hein, que les chrétiens collaborent donc aux manifestations et aux actions culturelles collectives qui sont de leur temps, qui les humanisent et les imprègnent d'esprit chrétien. Alors, c'est là, hein, c'est donc invitation à participer, au fond. Il est bon, il est utile et même nécessaire que des chrétiens s'engagent dans les actions culturelles collectives, le sportif étant inclus dans ce culturel collectif, qu'ils les humanisent et les imprègnent d'esprit chrétien. Alors, bon, il faudrait disserter longtemps pour essayer d'approfondir ça, mais vous voyez dans quelle logique hein, on est plus dans la logique de, comment dirais-je, de vivre des valeurs chrétiennes à l'intérieur d'un existant plutôt que de construire toute une infrastructure spécifiquement chrétienne, enfin si je comprends le texte. Hein. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire, je ne sais pas quoi, moi, mais toute une infrastructure de clubs et d'activités sportives spécifiquement chrétiens pour attirer à soi, mais il s'agit plutôt de participer et de contribuer de l'intérieur à promouvoir un esprit chrétien. Bon, il me semble que c'est bien dans la logique de l'apostolat de cette époque aussi, hein, qui visait beaucoup plus à annoncer l'évangile de l'intérieur en participant, en connaissant le semblable, en rejoignant le semblable sur son propre terrain, plutôt que en assénant des vérités ou des programmes de manière prescriptive. Voilà pour ce texte du numéro 61. Alors, une fois que j'ai dit ça, j'ai presque tout dit parce que je n'ai pas trouvé grand-chose d'autre. Il y a aussi un texte sur l'enseignement catholique au numéro 4, mais je ne pense pas qu'il apporte beaucoup de choses par ailleurs. Et puis, il n'a pas le même statut. Gaudium et Spes est une constitution pastorale, donc c'est un texte de tout premier plan. La déclaration sur l'enseignement catholique, c'est un texte relativement mineur. Bien, donc ce que je retiendrai de tout ça, je ne veux pas trop tarder, et bien que, au fond, notre intérêt pour le sport et notre intérêt pour le, appelons ça maladroitement, un dialogue entre Église et sport, hein, découle, au fond, d'une anthropologie chrétienne et découle d'une volonté, celle du développement intégral de la personne. Le sport n'étant pas seulement, tout le monde le comprend bien ici, de l'ordre du développement physique ou de l'exploit, mais impliquant une dimension sociale très forte, impliquant aussi le développement de valeurs, comme le respect de soi, le respect du corps dans lequel on habite, on évolue, on se transforme, le respect des autres, hein, dans le cadre d'une vie d'équipe par exemple, le respect de l'autre qui peut être différent, hein, je pense notamment à tout ce qui se fait pour promouvoir le sport dans le monde du handicap, je crois que ça permet aussi un développement de personnes qui sont limitées dans leur potentiel en raison d'une maladie ou d'un accident ou autre. Bon, et puis alors, je crois qu'il y a aussi un apprentissage du respect de la règle commune, du respect de la règle du jeu, et au fond, dans un monde où il n'y a pas trop de règles parfois, l'apprentissage par le biais du sport, du respect de la règle commune, peut être un puissant facteur de socialisation. Bon, donc le sport permet tout ça, et je crois que c'est bien que l'Église s'y intéresse dans la mesure où elle veut promouvoir le développement de la personne dans toutes ses dimensions. Je crois qu'il faut être aussi attentif, il faut l'être sûrement, à diverses limites. Je pense que parfois le sport nous est quand même trop présenté sous le jour de la compétition, sous le jour de l'exploit, hein, plus que d'une saine émulation. Hein. L'émulation, c'est, je dirais, c'est une rivalité respectueuse de l'autre. Il peut y avoir des formes de compétition qui cherchent plutôt l'écrasement de l'autre et la valorisation du sujet gagnant. Bon, Je crois qu'aussi, à travers l'image qui nous est renvoyée du sport, il y a parfois des questions d'argent, alors que le sportif professionnel assure sa subsistance à travers l'exercice de son sport, c'est tout à fait normal, mais que des sommes faramineuses soient dépensées pour le sport, sans que ça pose de problème métaphysique à qui que ce soit, semble-t-il, moi, ça me gêne quand même. Bien. Après, il y a toutes les questions de dopage ou de, disons, d'honnêteté par rapport à la performance, quoi. Hein, est-ce que... Bon, enfin, ça, vous voyez bien les questions que ça pose. Ou encore d'addiction. Et le sport, je crois qu'étymologiquement, vous savez aussi bien que moi, hein, le sport, c'est le fait de se tourner, de se porter vers autre chose. Et donc de se soustraire momentanément à une activité principale pour se détendre ou pour se construire sous d'autres aspects du développement de la personne. Si ça devient une addiction, je crois qu'on n'est plus dans une logique de sport, mais on est dans, je sais pas quoi, dans une logique de surhomme, d'addiction, oui, ou le sport devenant en quelque sorte l'essentiel de la vie, eh bien, ce sont d'autres aspects de la personne qui peuvent en pâtir ou être sous-développés. Bon, donc attention à cela, je crois que comme témoin du Christ, nous devons maintenir tous ces équilibres. Bon, un dernier mot sur la pastorale. Alors, la pastorale, je suis bien embarrassé, hein, pas grand-chose à dire. Je dirais quand même que l'Église catholique a un passé riche de patronage, d'activités culturelles et sportives dans un cadre paroissial, et que peut-être elle l'a un peu oublié. Maintenant, qu'est-il possible de faire aujourd'hui? J'avoue que je n'en sais rien du tout. Et puis, si on suit l'idée du concile, telle que je la développais tout à l'heure, hein, il s'agit davantage de participer à l'existant que de créer des structures autonomes. Voilà. Alors, bon, je crois que là, il y a un sujet de réflexion pour les pasteurs, au sens large du terme. Organiser une pastorale, est-ce que cela veut dire donner les moyens de participer dans des structures, on va dire, sociales, civiles, sportives, ou bien est-ce que c'est organiser du sportif spécifiquement chrétien? Je n'en sais rien. Mais le débat sera ouvert peut-être tout à l'heure. Bien. Je prête une attention particulière à la FSCF. Je trouve que une organisation qui a encore un potentiel important et qui a le mérite, enfin en tout cas me semble-t-il, de ne pas exclure le sens. Hein. Évidemment, dans une fédération de cette ampleur, on est bien loin d'un petit groupe paroissial. Hein. Donc la question du sens ne va pas se poser d'une façon peut-être immédiatement évangélique. On peut bien comprendre, il y a diversité de religions, où il y a des gens qui n'ont pas de religion, etc. Il faut tenir compte de tout ça, et on ne va pas proposer l'évangile comme ça de but en blanc. En revanche, à un moment ou l'autre, je crois que la question du sens doit pouvoir être posée, et renvoyer la question du sens, et surtout la réponse, à la propre tradition religieuse du sujet, me semble pouvoir être intéressant quand même. Hein, de dire, ben, si vous êtes chrétien, ou juif, ou musulman, ou je sais pas quoi, si vous avez d'autres sources de sens, hein, religieuses ou quasi-religieuses, eh bien, c'est là peut-être que vous êtes renvoyé pour approfondir les valeurs qui sous-tendent de votre activité sportive. Bon. Un mot aussi pour une activité qui semble avoir un certain succès dans nos diocèses, parfois le Pélé VTT. Alors le Pélé VTT, on est dans du religieux avec le Pélé, suppose qu'il y ait un but, comment dirais-je, dans l'ordre de la foi et de la piété. Les VTT, on suppose qu'il y a une activité sportive. Les vélos ne sont pas transportés sur des voitures, mais bien activés par des corps qui font rouler. Et donc, PLVTT, on est dans le sport et on est à l'église, si je puis dire. Place du sport dans l'église. PLVTT me semble être une expérience intéressante. Oui. Il faudrait voir de plus près ce qui se passe là-dedans. C'est un certain succès. Je crois que ce qui est intéressant, au moins comme ça, première vue, c'est un certain défi. Hein. Il y a une itinérance, et l'itinérance est apostolique. Il y a un certain... un certain abandon, hein, quitte au fond des sécurités pour se lancer dans une aventure. Il y a des responsabilités variées entre générations, puisqu'il y a des jeunes qui roulent, mais il y a des moins jeunes qui assurent toute une logistique, et puis les fonctions sont très bien réparties entre les gens. Il y a une dimension spirituelle, et même une dimension vocationnelle. Je crois que le PLVTT est souvent dans nos églises un lieu où des questions essentielles sur la vie, son sens et son orientation peuvent être posées. Enfin, il m'est arrivé une fois de nommer un diacre au service des milieux sportifs, sanitaires et sociaux. Sportifs, sanitaires et sociaux, on a fait un bloc. Mais dans le sportif, il y a du sanitaire, il y a du social, et réciproquement. Bon. C'est facile de manifester ainsi une attention de l'Église à une réalité. Après, c'est plus difficile d'exercer un vrai ministère au service des réalités du sport. Bon, voilà, j'avoue que je ne sais pas bien comment faire. Et qu'on peut rattacher le sportif au sanitaire et social, ben, je crois qu'on peut aussi le rattacher à la pastorale du tourisme et des loisirs et du thermalisme, car vous êtes au pays des volcans, pays d'eau minérale et d'eau qui ont toutes sortes de vertus thérapeutiques, donc on ne peut pas séparer le thermalisme de tout le reste. Alors, peut-être avoir une pastorale des loisirs, du tourisme, du thermalisme et du sport, qui sait. Mais j'attends vos suggestions pour aller plus loin. Je suis sûr qu'il y a un champ encore peu exploré et que nous aurions... intérêt à être davantage présent à ce monde du sport. Merci de votre attention.